L'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie au cœur des discussions la nuit dernière en métropole. Manuel Valls a été longuement interrogé à l'Assemblée nationale puis au Sénat. L'UNI approuve le projet d'indépendance avec partenariat, un projet déposé par le ministre des Outre-mer. La délégation veut poursuivre le dialogue. De leur côté, les loyalistes et le rassemblement demandent à l'État d'assurer la bonne tenue des élections. Quatrième et dernier jour du procès de 5 élus de Calédonie Ensemble jugés pour des soupçons d'emploi fictifs. Les avocats de la défense réclament la relaxe pour tous les prévenus. Deux requins aperçus en début d'après-midi à Lansvata. Un dispositif de sécurité a été mis en place. La plage a dû être évacuée pendant près de 3 heures. Et puis 18 nouveaux infirmiers en Nouvelle-Calédonie. Après 3 ans de formation, ces étudiants ont enfin reçu leur diplôme aujourd'hui. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Et l'avenir institutionnel à la une de l'actualité ce jeudi soir, une semaine après l'échec des discussions, le ministre des Outre-mer de retour à Paris a été rattrapé par le dossier calédonien. Manuel Valls s'est retrouvé sur la sellette lors des séances des questions au gouvernement, d'abord à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Elisabeth Noir.
La proposition d'indépendance d'association posée par Manuel Valls la semaine dernière suscite en effet des réactions et des inquiétudes, tant chez les députés que chez les sénateurs. À l'Assemblée nationale, la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, a fait un parallèle entre la situation de Mayotte et celle de la Nouvelle-Calédonie, et elle a reproché au ministre des Outre-mer d'avoir proposé aux Calédoniens une indépendance déguisée.
Vous revenez de négociations en Nouvelle-Calédonie où vous avez mis sur la table une proposition d'indépendance association, c'est-à-dire un transfert des compétences régaliennes, l'instauration d'une double nationalité de droit et néo-calédonienne avec un statut internationalement reconnu. Votre démarche nous alarme et nous interroge bien au-delà de la Nouvelle-Calédonie. À Mayotte, comme en Polynésie et ailleurs en Outre-mer, votre proposition d'indépendance aux Calédoniens qui ont dit non, votre proposition sonne comme une alerte rouge. Les Calédoniens ont exprimé clairement, par 3 référendums successifs, leur attachement indéfectible à la République. Malgré ces votes, vous avez choisi d'offrir une indépendance déguisée. Vous avez choisi de céder aux violences et de vider les votes de toute substance.
Une interpellation qui a agacé Manuel Valls. Le ministre des Outre-mer a rappelé sa position et sa proposition d'un partenariat entre la France et la Nouvelle-Calédonie.
La Nouvelle-Calédonie a une trajectoire singulière. Son histoire est celle d'une colonisation de peuplement et pénitentiaire brutale. Il y a un peuple premier, les Kanaks, qui a connu la ségrégation. Elle est inscrite sur la liste des pays à décoloniser des Nations Unies. 3 référendums, vous avez raison, ont refusé l'indépendance, même si le troisième a laissé un sentiment d'inachevé. Mais cela ne signifie pas la fin du processus de décolonisation et d'autodétermination qui est incontournable si l'on veut la stabilité et la paix. Les accords de Matignon et de Nouméa cherchent à concilier la recherche d'un lien fort avec la France et l'aspiration à la souveraineté. C'est mon choix, c'est notre choix, un partenariat solide et durable avec la France, et j'ai toujours bon espoir qu'on y arrive et les discussions continuent. Moi, ce que je veux, Madame la députée, c'est la paix civile en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs et ce qu'on puisse trouver, oui, l'accord et le chemin commun qui étaient inscrits dans les accords de Nouméa.
Mais cette réponse n'a pas convaincu la députée de Mayotte et elle a vertement répondu à son tour au ministre des Outre-mer.
Monsieur le ministre, ce que vous venez de dire est gravissime. Vous venez, malgré les 3 votes contre l'indépendance, de maintenir ici, devant la représentation nationale, que vous la mettez sur la table. Vous savez parfaitement que la décolonisation ne signifie pas l'indépendance automatique. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que quelle que soit la position de la majorité en Nouvelle-Calédonie, vous allez imposer l'indépendance. C'est grave.
Cette réponse de la députée de Mayotte, Manuel Valls, n'en est pas fini pour autant. Avec la Nouvelle-Calédonie, le député des Bouches-du-Rhône, Olivier Fessa, du groupe Union pour la droite républicaine, s'est adressé au Premier ministre en mettant directement en cause l'amateurisme du ministre des Outre-mer.
Le dossier calédonien est traité avec un amateurisme mettant en danger l'unité de la nation. Alors que 3 référendums ont rejeté l'indépendance, les initiatives de votre ministre traduisent un contournement de la volonté populaire. Son projet d'indépendance association, sans soutien de l'Élysée ni mandat démocratique, remet en cause l'intégrité de notre territoire. Ce n'est plus possible, la situation exige un cap clair.
C'est le Premier ministre qui était interrogé, mais c'est Manuel Valls qui a répondu en affirmant qu'il faut avant tout la fin du processus de décolonisation et l'exercice du droit à l'autodétermination. Un ministre des Outre-mer sur la défensive qui a de nouveau dû batailler au Sénat une heure plus tard lors de la séance des questions au gouvernement. Là encore, il a été interpellé très vivement sur sa proposition d'indépendance d'association par le sénateur socialiste du Val-d'Oise, Rachid Temal. Et c'est ensuite le sénateur calédonien, Georges Naturel, qui à son tour a interrogé le ministre des Outre-mer avec des questions très précises.
À l'heure où le silence succède à l'échec, quelle suite concrète le gouvernement entend-il donner au processus de négociation ? Ensuite, à quelle date entendez-vous fixer les prochaines élections provinciales, reportées à deux fois, reprises dans des conditions exceptionnelles, mais désormais attendues comme un repère démocratique indispensable ? Enfin, le gouvernement envisage-t-il de déposer préalablement à ce scrutin un projet de loi organique permettant d'ouvrir partiellement le corps électoral provincial, notamment à tous les natifs de Nouvelle-Calédonie et aux petits-enfants des citoyens calédoniens afin de rendre plus démocratiques les prochaines élections provinciales.
Dans sa réponse, Manuel Valls confirme qu'il n'y aura pas de nouveau report des élections, mais il ne fixe pas de date. Il réaffirme que pour lui, un accord est indispensable et il déclare que comme on ne peut pas faire un référendum sans les Kanaks, on ne peut pas faire une réforme du corps électoral contre les Kanaks.
Un nouveau report des élections apparaît en effet, en l'absence d'accord, difficile politiquement et juridiquement. Mais, j'ai bon espoir que les discussions se poursuivent. Car j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il faut un accord. L'accord est indispensable. C'est incontournable si l'on veut la stabilité et la paix. Ainsi, je ne veux pas m'avancer tout de suite, ni sur une date d'organisation des élections, ni sur la question du corps électoral. Je considère que nous avons encore un peu de temps pour permettre le rapprochement des points de vue. Mais je veux dire clairement les choses. Comme on ne peut pas faire un référendum sans les Kanaks, on ne peut pas faire une réforme du corps électoral contre les Kanaks.
Des échanges sans concession entre Manuel Valls et les parlementaires, une semaine après l'échec de Deva, le ministre des Outre-mer qui a dû ferrailler dans les deux hémicycles, mais qui ne bouge pas d'un iota, et qui, sans la nommer, assume sa proposition d'indépendance association.
Et l'UNI qui approuve le projet d'indépendance avec partenariat déposé par le ministre des Outre-mer, elle affirme que c'est le projet de l'État. Sa délégation, qui participait aux discussions pour l'avenir institutionnel, veut poursuivre le dialogue pour aboutir à un accord, Elisabeth.
Un accord qui, pour l'UNI, ne peut être que sur la base de la proposition de Manuel Valls, et c'est le projet de l'État. Jean-Pierre Diaoué, Adolphe Digot et Victor Sotougoro estiment que ce projet d'indépendance avec partenariat répond aux aspirations politiques, économiques et sociales des Calédoniens et ils relèvent que ce projet a obtenu l'assentiment d'une majorité de responsables lors des négociations. L'UNI approuve d'ailleurs la méthode Valls et elle se retrouve dans ce projet d'indépendance présenté par le ministre des Outre-mer, comme le souligne Jean-Pierre Diaoué.
Pour la première fois, l'État met sur la table sa vision d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie. Donc on dit que c'est le projet de l'État. C'est un projet de souveraineté avec la France. Partenariat, association, mais c'est-à-dire que le pays devient souverain en partenariat avec la France. Donc c'est là où l'exercice se fait. Ce sont les compétences régaliennes qui sont rétrocédées à la France pour être exercées par la France. Et dans ce laps de temps, pendant cette période de transition, une période qui a été déterminée, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On forme les Calédoniens pour participer à l'exercice de ces compétences régaliennes qui sont assurées par la France. Et ce partenariat, il peut durer sur un temps déterminé, comme il peut durer, c'est un partenariat qui est indéfini.
Mais c'est bien un projet d'indépendance.
C'est un projet d'indépendance. C'est exactement, et c'est là toute la difficulté que l'on arrive difficilement à discuter avec les non-indépendantistes.
L'UNI regrette en effet que les loyalistes et le Rassemblement refusent ce projet et elle dénonce une volonté ferme et figée de leur part. Elle les accuse même d'avoir tout fait pour torpiller les négociations. L'UNI qui, dans la lignée de Manuel Valls, dénigre le projet des partisans de la France en parlant d'un projet rétrograde de partition et qui n'apporte aucune solution pour l'avenir. Qu'à cela ne tienne, l'UNI estime qu'un accord est possible. Elle affirme qu'il existe un consensus entre une partie importante des délégations présentes à Deva. Mais alors, quelles sont les délégations qui ont approuvé ce projet d'indépendance ?
Eh bien, il y a Calédonie Ensemble, l'Éveil Océanien, le FLNKS et l'UNI.
Et c'est avec eux que vous pensez pouvoir continuer à discuter ?
Oui, avec eux. On essaie de discuter déjà avec eux pour voir comment on peut avancer encore un peu plus. Et une fois qu'on se mettra d'accord, il faut qu'on fasse également cette démarche vers les loyalistes et le Rassemblement.
Et après l'échec des discussions à Deva, l'UNI voit deux options. La première, c'est donc de poursuivre les discussions pour trouver un consensus sur le projet de l'État. À défaut, elle suggère que l'État organise un référendum de projet pour départager les deux propositions, celle d'une souveraineté de la Calédonie avec la France et celle d'un fédéralisme au sein de la France, l'unique qui n'est pas favorable pour l'instant à l'organisation d'élections provinciales parce que cela créerait, dit-elle, de nouveaux problèmes.
Et enfin, de leur côté, les loyalistes et le Rassemblement demandent à l'État d'assurer la bonne tenue des élections. Ils souhaitent que les négociations se poursuivent.
Dans un communiqué, ils rappellent que Manuel Valls a annoncé qu'il demanderait l'organisation des élections provinciales avant la fin du mois de novembre, tirant ainsi les conclusions de l'échec des négociations conduites sous son autorité. Pour les loyalistes et le Rassemblement, il appartient désormais au gouvernement d'organiser ces élections dans le strict respect des règles démocratiques, c'est-à-dire en assurant l'ouverture du corps électoral provincial, en assurant la liberté de faire campagne sur l'ensemble du territoire et en assurant le libre exercice du droit de vote dans les isoloirs, garantissant l'anonymat et la sécurité des électeurs. Les loyalistes et le Rassemblement relèvent par ailleurs que le devoir des partenaires politiques locaux est de continuer à rechercher ensemble une solution politique durable qui respecte les expressions démocratiques et les aspirations de chaque Calédonien. À ce titre, ils estiment qu'au conclave de Deva, les échanges entre partenaires calédoniens n'ont pas été au bout de ce qu'il est possible de faire et que le fil du dialogue ne doit pas être rompu. Selon eux, le chemin pour trouver une solution consensuelle est étroit, mais il existe. Les loyalistes et le Rassemblement réaffirment leur opposition à toute forme d'indépendance et ils déclarent qu'ils restent pleinement engagés pour être force de proposition afin de faire émerger cette solution attendue par l'ensemble des Calédoniens. Une solution qui garantisse la stabilité institutionnelle et la reconstruction économique. Fin de citation.
Et nous reparlerons des discussions sur l'avenir institutionnel demain en compagnie d'Éric Deschmaker, professeur de droit à Melbourne, observateur attentif de l'actualité calédonienne et défenseur de la Calédonie ensemble, Calédonie française, pardon, avant de quitter le territoire. Il sera notre invité du matin demain à 7h30. Et demain midi également, c'est Teddy Le Courrieux qui sera votre invité. Elisabeth, dans le magazine Transparence, il a annoncé il y a une semaine sa décision de démissionner de son mandat de maire du Mont d'Or. Il sera donc interrogé sur les raisons de ce choix, mais aussi sur le bilan de son action et sur son analyse de la situation. Eddy Le Courrieux, invité de Transparence, est à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. L'actualité judiciaire, quatrième et dernier jour du procès de 5 élus de Calédonie Ensemble, jugés pour des soupçons d'emploi fictif à la province sud et au Congrès. Les 4 jours d'audience se sont refermés par les plaidoiries de la défense, Jean-François Baudin.
Oui, et c'est Maître Calmé qui a ouvert les plaidoiries de la défense. Il défend Sutita Siolagadec, dont il a minimisé le rôle, alors qu'elle a même demandé, a-t-il rappelé, la démission de certains collaborateurs qui n'assistaient pas aux fameuses réunions, qui étaient la seule contrainte liée à leur rôle de collaborateur. Il a réclamé la relâche, là où le ministère public avait requis ce matin 2 ans de prison, dont 1 avec sursis. Je rappelle tout de suite, pour ne pas avoir à le répéter, que le ministère public a requis aussi 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire à l'encontre de tous les prévenus dans ce dossier. La défense de Fiou Mouliakaaka n'était pas la plus simple. Il se retrouve sur le banc des accusés pour complicité de détournement de fonds publics, alors que c'est lui qui a révélé le système des emplois fictifs mis en place. Son avocat, Maître Moresco, s'est attaché à démontrer sa rectitude. Il répondait aux ordres d'un parti qu'elle a qualifié de mouvement un peu sectaire, avec un chef dont on ne discute pas les ordres, et elle a demandé elle aussi la relaxe de son client. C'est ensuite Maître de Grélan qui a plaidé pour Martine Lagneau et Philippe Michel, pour lesquels le ministère public a requis respectivement 18 mois avec sursis et 3 ans dont 2 avec sursis. Pour Maître de Grélan qui a réclamé lui aussi la relaxe de ses clients, un collaborateur politique, c'est ainsi qu'il a qualifié les membres de la communauté wallisienne et foutoudienne recrutés par la province, ne peut pas travailler pour la collectivité. Le système était donc légal ou justifié, s'est-il attaché à démontrer. Ce sont ensuite les avocats de Philippe Gomez qui ont plaidé. Maître Cornu-Gentil d'abord, voix douce mais propos combatifs, a jugé les réquisitions, 4 ans de prison dont 2 fermes, étaient sévères, injustes et disproportionnées. Et il y voit un aveu de faiblesse du ministère public qui est parti du principe que ces emplois étaient bien fictifs, sans arriver à démontrer selon lui qu'ils l'étaient vraiment. Il a interrogé aussi le tribunal et donc la justice sur sa capacité à juger de la qualité du travail d'un collaborateur et sur sa légitimité à le faire alors que cela relève de son employeur, voire du tribunal du travail. Il a donc plaidé la relaxe à l'encontre de Philippe Gomez, tout comme son confrère du barreau de Paris, Maître Jean-Yves Le Borgne, qui a conclu les plaidoiries avec sa voix et sa phraséologie si particulière. Il est de bon ton de jeter l'opprobre sur les hommes politiques, a-t-il lancé d'entrée, qu'on n'oublie pas que c'est la base du populisme. Il s'est ensuite appliqué avec sa verve habituelle, en s'adressant parfois directement au procureur de la République et aux avocats des parties civiles, de tenter de démontrer que les fameux emplois dont il est question étaient est en tout point en conformité avec les délibérations 100CP de 1996 et la délibération 207 de 2011. Les faits mériteraient que vous prononciez une décision de relax, a-t-il conclu devant le tribunal, là où le droit vous commande de le faire. D'une façon générale, la défense s'est donc attachée à montrer que les collaborateurs mis en cause faisaient leur travail légalement, là où le procureur de la République a parlé ce matin d'un système clientéliste mis en place par Philippe Gomès et Calédonie Ensemble. C'est bien sur cette différence que le tribunal devra statuer. Les débats ont pris fin il y a un instant, vers 17h30. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet prochain à 8h.
Merci beaucoup Jean-François Bonin pour toutes ces précisions.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est donc l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, d'abord, 91% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent suivre avec intérêt le procès des emplois fictifs. Ils sont 9% à dire que cela ne les intéresse pas. Notre question du jour maintenant, les conducteurs de Tanéo ont-ils raison selon vous de débrayer pour protester contre les caillassages dont ils sont la cible? Si vous pensez qu'ils ont raison, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. L'actualité judiciaire, c'est aussi la suite de la deuxième session d'assises de l'année. Aujourd'hui et demain, l'homme qui comparaît est accusé d'assassinat. Le 27 décembre 2020, à Calagomène, il a tiré à bout portant avec un fusil sur un jeune homme. Ce jeudi, les témoins ont été entendus, tout comme l'accusé, avant de laisser place aux experts légistes, psychiatres et en balistique. Demain matin, ce sera au tour des plaidoiries et réquisitoires avant le délibéré qui est attendu aux alentours de 10h30. L'homme encourt la réclusion criminelle à perpétuité. 18h passé de 2 minutes, on marque une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire.
Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température?
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00, RIAS 170 052, ORIAS 13 103.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Info Soir, Léo Fichou.
Les élus du Congrès réunis ce matin boulevard Vauban pour une séance publique technique. À l'ordre du jour, l'examen de 4 projets de délibération et un projet de loi du pays relative à l'exploitation des œuvres cinématographiques. Une loi était adoptée à l'unanimité des élus qui va encadrer les relations contractuelles entre les distributeurs de films et les exploitants de Nouvelle-Calédonie. Écoutez Françoise Suvet pour le groupe Loyaliste, rapporteur spécial de cette proposition de loi du pays.
Le code du cinéma qui existe en métropole n'est pas applicable sur le territoire. En revanche, en 2023, il y a une loi qui est passée à l'Assemblée nationale qui encadre cette relation pour les DROM, c'est-à-dire les départements et régions d'outre-mer, et qui fixe en fait une fourchette maximum de 35%, ce qui doit revenir aux distributeurs, le reste allant aux exploitants de salles. Ici, on ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, eh bien, au lieu que 50% du billet du ticket du cinéma sortent et aillent à l'extérieur, eh bien on encadre et on dit eh ben non, ce sera 35% maximum et le reste restera sur le territoire. Conserver cette activité économique qui est un pan de la culture quand même en Nouvelle-Calédonie et en même temps de conserver les emplois et puis d'avoir un peu plus d'argent pour ces opérateurs économiques qui paieront aussi un peu plus d'impôts sur les sociétés et forcément plus de taxes à la consommation.
Et lors de cette séance, les conseillers du Congrès ont également adopté une délibération maintenant la garantie d'emprunt de la Nouvelle-Calédonie qui est accordée à la compagnie Air Calédonie dans le cadre de reports d'échéance de remboursement d'emprunt. Emprunt qui avait été contracté en 2016 pour le renouvellement de la flotte de la compagnie domestique. En début de séance, les élus ont également acté une modification de la composition de la commission permanente. Louis Mapou remplace Inès Coité. Il s'agit là d'un simple choix de groupe, a expliqué Jean-Pierre Djaoué, le chef du groupe UNI. L'autorité de la concurrence saisie par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour la réalisation d'une étude spécifique sur les marges pratiquées par les enseignes de la grande distribution. Dans un souci de transparence et d'efficacité économique, cette étude portera à la fois sur les marges avant, les écarts entre prix d'achat, prix de vente aux consommateurs, et les marges arrière, remises, ristournes ou avantages accordés par les fournisseurs aux distributeurs. La plateforme Sudpro, mise en place par la province Sud pour les patentés et les très petites entreprises, est un véritable succès. La province indique que 7000 entreprises se sont déjà inscrites, dont 6000 patentés et TPE ont déjà bénéficié du dispositif. Face à ce succès, la présidente de la province Sud a annoncé une enveloppe supplémentaire de 200 millions de francs, ce qui porte la dotation globale à 1 milliard 200 millions. 600 millions ont déjà été consommés via la plateforme. La Fédé réagit ce matin à l'accord cadre porté par Christopher Gigès et signé par les syndicats et le gouvernement suite à la conférence sociale et fiscale. La Fédé a décidé, Charlotte Coulson, de ne pas signer cet accord.
Steve Territaou, le secrétaire général du syndicat, félicite pourtant la méthode mise en place par le gouvernement, mais explique que cet accord ferme les portes à toute option et rajoute que les salariés et les consommateurs ne doivent pas être des leviers d'ajustement.
Notre gros désaccord, c'est principalement le transfert des charges. Le gouvernement simule une augmentation du pouvoir d'achat et des revenus avec une restitution des cotisations salariales, mais au détriment d'une compensation sur la consommation. Donc pour nous, ça, c'est la ligne rouge à ne pas franchir, parce qu'aujourd'hui, les seules propositions qui apparaissent dans ce projet d'accord, c'est le transfert des charges vers la consommation, c'est la baisse de l'IS au travers et compensée par la CCS, c'est toute une augmentation de la fiscalité indirect qui reste intolérable à nos yeux. Donc pour nous, c'était inacceptable de signer un document dans lequel on n'avait pas possibilité d'évoluer dans les propositions.
Après son refus de signer l'accord cadre, la Fédé a été évincée des discussions et des groupes de travail, mais le syndicat promet de rester force de proposition, à l'image de son PR2S, plan de refondation sociale et solidaire. Steve Territaou a présenté ce matin les propositions autour de plusieurs thèmes, coût du travail, bas salaire, pouvoir d'achat et réforme fiscale, mais aussi santé, enseignement, formation, insertion, habitat et transport, un plan qui vise à lutter contre les inégalités.
Plan qui venait contrecarrer un peu le PS2R du gouvernement de façon à ce que les inégalités qui n'étaient pas prises en compte puissent enfin être prises en compte par un nouveau plan. Ben, notamment, on va parler de la plus grosse inégalité qui existe et qui perdure depuis plusieurs décennies, c'est l'inégalité fiscale. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite rétablir, c'est un meilleur partage des richesses, notamment au travers de la fiscalité. On veut diminuer la fiscalité indirecte sur la fiscalité directe.
La Fédé propose également la mise en place d'un observatoire des inégalités et de la pauvreté.
Et dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, nous sommes revenus en détail sur cet accord cadre signé par les partenaires sociaux. Émission à laquelle participait Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment de l'économie, Alexis Falematagia, secrétaire général adjoint de l'USOINC, et Bertrand Courte, le vice-président du MEDEF. Ils sont revenus sur les principales dispositions de cet accord et leur déclinaison. Une émission que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site internet.
RMB 18h09.
Le 15 mars 2024, le gendarme Nicolas Molinari, âgé de 22 ans, était tué d'une balle dans la tête à la coulée au Mont d'Or. Un an après ce drame, l'association des citoyens mondoriens a décidé de rendre hommage aux gendarmes décédés. C'était le 15 mai 2024. Une gerbe a été déposée devant la gendarmerie de Ploum, là où une stèle a été érigée en son honneur. Les membres de l'association s'y sont recueillis. Un moment empli d'émotion pour Florent Perrin, le président de l'association des citoyens mondoriens.
Pour nous, Nicolas Molinari, c'est un personnage important puisqu'il a été assassiné sur notre pont à la coulée. On était tous un peu dans les parages parce qu'on surveillait aussi nos quartiers à l'époque. Et donc, ça nous a paru très important, le jour anniversaire de sa mort, d'être là. Que ce soit un peu quand même reconnu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il a défendu des valeurs qui nous ressemblent. Donc, il fallait qu'on soit là en ce jour pour commémorer, pour marquer le coup et pour pas qu'on l'oublie.
La stèle devant laquelle plusieurs gerbes ont été déposées aujourd'hui avait été érigée le 4 février dernier. C'est, je le rappelle, à la gendarmerie de Ploum. L'actualité, les faits divers. Deux requins d'environ 3 à 4 mètres ont été aperçus en début d'après-midi à Lansvata. Après le signalement, le dispositif de sécurité a été mis en place par la police municipale et les pompiers de la ville de Nouméa. La police a évacué la plage peu avant 13 heures. Un bateau des pompiers de Nouméa et un drone de la police municipale étaient sur place pour l'observation des squales. Par mesure de sécurité, la plage est restée fermée jusqu'à 15h30. L'incendie d'une maison à Rivière-Salée ce matin, il s'agit d'un incendie accidentel qui s'est déclaré au premier étage d'une maison mitoyenne. Les pompiers ont pu éteindre l'incendie, mais les dégâts sont importants. Les deux familles de ces maisons mitoyennes vont devoir être relogées. 18h passées de 10 minutes, seconde pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Cure Essentielle, l'expert des huiles essentielles, s'engage dès aujourd'hui à vous offrir le meilleur du bio au meilleur prix pour votre santé et votre bien-être. En direct de nos producteurs locaux, les huiles essentielles Cure Essentielle sont certifiées 100% bio, pures et naturelles. Cure Essentielle, l'efficacité à l'état pur.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal avec vous, Léo Fichou.
Et c'est la fin de 3 années qui n'ont pas été de tout repos pour ces jeunes diplômés. 18 étudiants ont aujourd'hui reçu leur diplôme d'infirmier d'État après un parcours mouvementé, Charlotte Coulson.
Ils ont commencé leur cursus en 2022 et ne s'attendaient pas à devoir surmonter de telles difficultés. Le Covid a été une première épreuve dans la formation de ces jeunes. Et puis, lorsqu'ils pensaient avoir laissé le pire derrière eux, les émeutes ont éclaté le 13 mai 2024. Il y a un an, jour pour jour, les étudiants de l'Institut de formation des professions sanitaires et sociales ont vu leur établissement partir en fumée à Nouville. C'est finalement au terme d'une longue période de doute, de crainte, mais aussi de combativité qu'ils ont reçu leur diplôme. Aujourd'hui. Parmi eux, Chanda Ramesh, 25 ans, garde bien en tête ce parcours mouvementé.
En fait, ça avait éclaté au mois de mai 2024 et on s'est dit que ça allait prendre 2 semaines, voire 3 semaines. Et en fin de compte, ça a pris 4 mois. On était tous dans le doute, mes collègues et moi. On ne savait pas si on allait reprendre parce qu'on a su que ça avait pris feu notre établissement. On était en train de se dire, est-ce qu'on va reprendre? Et c'est vraiment à partir du mois de septembre qu'on a su qu'on allait reprendre. C'était un soulagement, mais en même temps, ce qui faisait peur, c'était la route, quoi. D'aller directement à la clinique parce qu'en même temps, il y avait des trucs au niveau du Sénat. Et comme on finissait à 18h, 19h, dans le noir, il n'y avait pas de lumière, on passait. Mais voilà, on se disait, est-ce que ça va passer ou pas? Si on se faisait caillasser ou pas? Donc, c'était plus ça qui m'inquiétait. Mais voilà, on s'est accroché. Il y a eu une solidarité dans notre promotion. Donc, on a tout fait pour bien finir, quoi. Soulagée d'avoir enfin fini la formation. Je suis très contente. Enfin, j'ai mon diplôme. Carrément que je suis fière de moi. 3 ans et demi, quand même, hein. Donc, ouais, je suis très contente de moi. Je suis contente aussi pour mes collègues. Mais on a géré.
Aujourd'hui, sur une promotion de 36 étudiants, 18 sont désormais infirmiers d'État. Une lueur d'espoir pour le territoire, selon Claude Gambet, membre du gouvernement en charge de la santé, qui a participé à la remise de diplôme. Dans un contexte de pénurie de personnel soignant, le gouvernement cherche des solutions pour valoriser la formation de jeunes infirmiers et infirmières.
Au conseil d'administration qui s'est déroulé le 31 mars, nous avons augmenté la promotion à 75 postes. Mais je reste convaincu que ce n'est pas encore suffisant. Donc, à l'occasion de ma mission en Hexagone, j'ai eu des contacts avec certaines universités, dont celle de Bordeaux, pour leur demander d'ouvrir éventuellement des places pour les étudiants et étudiantes calédoniennes qui souhaiteraient faire leur formation en France. Parce que plus on augmente le nombre de places, plus il faut de cadres, etc. Et plus il faut des bâtiments. Nos bâtiments ont été détruits. Donc le chantier de reconstruction est en cours, mais il n'y a pas d'autre choix que d'aller prospecter auprès d'autres centres hospitaliers universitaires pour pouvoir nous aider à produire beaucoup plus d'infirmières. Voilà, parce que le besoin pour la Nouvelle-Calédonie, c'est à minima 100 infirmières par an, si ce n'est plus.
Et les 18 autres élèves qui n'ont pas réussi à obtenir leur diplôme aujourd'hui pourront toujours retenter leur chance au mois de septembre lors d'une seconde session d'examen et puis en décembre pour leur dernière chance.
La 4e édition d'Akagou aura lieu le 1er octobre prochain à l'Arène du Sud de Païta, un événement organisé depuis 2022 par le cluster OpenNC qui est dédié à la découverte de la cybersécurité et du numérique. Une édition 2025 placée sous le signe de l'IA, l'intelligence artificielle, avec pour thème l'apocalypse. Au programme de cette journée, sous le signe du numérique, donc un village découverte, des conférences et une zone scolaire. Les précisions de Laurent Rivaton, professionnel de la cybersécurité et président président aussi de la commission cybersécurité du cluster OpenNC.
C'est un événement de cybersécurité qui est articulé autour d'un CTF. CTF, ça veut dire Capture the Flag, donc capturer le drapeau en français. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que c'est une façon de gamifier des environnements d'entraînement et d'apprentissage pour les professionnels de la cybersécurité, pour leur donner envie de se dépasser, de s'évaluer, de se confronter aux collègues aussi. Puisqu'en fait, il y a tout un tas de challenges à résoudre dans plein de sujets de la cybersécurité, de la cryptographie, du codage, de l'enquête forensique, etc. Et à chaque fois qu'un challenge est découvert et résolu, et ben, on marque des points. Alors, une grosse nouveauté en termes de lieu, c'est que jusqu'à présent, ça s'est toujours tenu à Nouméa. Cette année, on va à Païta. Donc on sera dans l'arène du Sud, donc un lieu qui est super intéressant pour nous parce qu'il y a de la place et donc on va pouvoir s'exprimer pleinement. Et puis il y a d'autres nouveautés, le fait qu'on va avoir des challenges qui sont personnalisés pour certains partenaires. Et l'autre nouveauté, c'est qu'on a un petit événement qui commence aujourd'hui et jusqu'à la fin du week-end, donc jusqu'à dimanche soir, qui s'appelle le MIDAC, dans lequel on met à disposition de ceux qui le souhaitent un certain nombre de challenges, 5 challenges, qui sont là pour mettre en appétit, mettre dans l'ambiance, et qui sont une forme de préparation et de mise en bouche pour le 1er octobre, la date du Akagou.
Le 1er octobre donc, l'édition 2025 d'Akagou, en direct de la Reine du Sud de Païta. Et puis on termine avec un mot de sport en Calédonie, du football. C'est dans 2 jours la reprise de la Super League. Samedi donc aura lieu le coup d'envoi d'une saison au format transitoire. 4 matchs seront au programme. 2 au stade Boeva du Mont-d'Or, le CA Saint-Louis contre l'AS Kounié à 14h, puis l'AS Mont-d'Or contre Yengensport à 16h30. Du côté de Nouméa au stade Noumadélé, c'est l'AS Magenta qui ouvrira le bal à 15h face à l'AS Lossi. Dans la foulée, à 17h30, Tigasport défiera l'AS Gaïcha. Ces 2 rencontres seront à suivre en direct sur la chaîne Pacifique Plus, le canal 10. La tribune d'honneur du stade Noumadélé est toujours fermée. L'entrée se fera uniquement sur la tribune côté mer, au tarif de 300 francs. Après le sport, on passe à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Allons-y. Alors, cette nuit, la nuit sera étoilée dans l'ensemble, malgré des averses qui remonteront vers le nord-est en soirée. Le vent de secteur est soufflera entre 10 et 15 nœuds, voire entre 15 et 20 nœuds sur la pointe nord et les Loyautés. Sur le littoral ouest de la Grande Terre, il faiblira entre 5 et 10 nœuds, voire moins de 5 nœuds. Les températures de la nuit remonteront légèrement, souvent de 20 à 24 degrés, et jusqu'à 17 à 20 degrés sur la côte ouest. Demain matin, sur la façade ouest, le soleil sera généreux. Ailleurs, des paquets nuageux circuleront et déposeront quelques gouttes. L'alizée de secteur est se maintiendra de 15 à 20 nœuds en général, voire 20 à 25 nœuds sur la pointe nord, avec des rafales possibles de l'ordre de 30 nœuds. Sur l'ouest, il sera compris entre 10 et 15 nœuds, Léo.
Merci beaucoup, Nicolas, et merci à vous d'avoir suivi ce journal.